L'Hebdo Région, le magazine d'information proposé par les rédactions de vos radios chrétiennes en Pays de la Loire.
Bonjour à toutes et à tous. Elles devaient se tenir à Angers. Elles se sont tenues à distance, Covid-19 oblige. Cette semaine, c'était les 14e journées du cancéropôle du Grand Ouest. Médecins, chimistes ou psychologues ont partagé les résultats de leurs recherches sur le cancer. Ils pointent notamment le rôle des pesticides qui favorisent l'apparition de cette maladie. Ils sont allés en classe même pendant les vacances. La semaine dernière, plus de 1000 élèves de la région ont pris part aux vacances apprenantes. Au programme au collège, des cours de français et de maths le matin et des activités ludiques l'après-midi. Objectif, rattraper le retard pris pendant le confinement, mais aussi occuper les jeunes désœuvrés, nous dit le recteur de l'Académie de Nantes. Pour ne pas voir fermer les deux dernières boulangeries du village, la mairie de Noyens-sur-Sarthe a décidé de les racheter, car sans boulangerie, c'est l'ensemble des commerces qui seraient en péril, estime le maire de cette commune de près de 3000 habitants, commune qui a vu des Parisiens venir s'installer après le premier confinement. Une famille sillonne l'ouest de la France en tricycle pour faire connaître la dévotion des trois Ave, une dévotion du XIIIe siècle. Il s'agit de réciter trois Je vous salue Marie chaque matin et chaque soir. Cette prière apporte la paix et la sérénité, témoigne cette famille de passage en Vendée. Avec le confinement, son périple jusqu'à Lourdes a été suspendu. Et puis ce dimanche, c'est la Toussaint et vous irez peut-être vous recueillir sur la tombe de vos proches. On se penchera sur les épitaphes, ces inscriptions qu'on trouve sur les pierres tombales. Un dictionnaire en recense plus de 500 en Mayenne. Certaines sont des poèmes, d'autres sont illustrés ou même humoristiques, vous l'entendrez. Voilà pour le sommaire de cette hebdo-région, présentée cette semaine par la rédaction de RCF Anjou, en collaboration avec les autres radios chrétiennes des Pays de la Loire.
L'hebdo-région, l'actu de la semaine.
Cette semaine, c'était les 14e journées du cancéropôle du Grand Ouest. Des journées qui devaient avoir lieu à Angers, mais qui se sont finalement déroulées à distance, Covid-19 oblige. Lundi et mardi, des acteurs de la recherche contre le cancer se sont réunis pour partager leurs connaissances et évoquer le futur plan européen de lutte contre le cancer. Florian Perret, concrètement, de quoi a-t-il été question lors de ces deux jours?
Alors Marion, si je peux me permettre, j'aimerais d'abord commencer par expliquer ce qu'est un cancéropôle. Pas forcément évident pour tout le monde. Écoutez les explications assez parlantes, je trouve, du professeur Loïc Vaillant, président du cancéropôle, justement, Grand Ouest, que nous avons interrogé à cette occasion.
L'idée a été de créer en France, il y a maintenant 15 ans, des cancéropôles dans chaque région, de façon à ce que l'ensemble des chercheurs pouvant avoir des travaux utiles à la lutte contre le cancer, se connaissent. On a des équipes qui travaillent, je veux dire, quasi exclusivement sur le cancer, et elles sont au cœur, évidemment, du cancéropôle Grand Ouest. Mais vous avez, par exemple, des chimistes qui travaillent sur le cancer, comme ils peuvent travailler sur beaucoup d'autres maladies, voire même d'autres sujets. Et on a eu, comme ça, un certain nombre de projets un petit peu innovants. Alors, ça va de choses qui ne parleront peut-être pas à tout le monde, jusqu'à ce qu'on a appelé les produits de la mer, c'est-à-dire des produits dans la mer que l'on peut utiliser, une fois un petit peu retraité, utiliser dans la lutte contre les cancers. Donc vous voyez des choses qui n'associent pas que des spécialistes estampillés cancer, mais des gens qui peuvent être des psychologues, qui peuvent être des spécialistes de linguistique, par exemple, savoir communiquer sur le cancer, c'est aussi important.
Pendant ces deux jours, ces spécialistes de tous bords, comme vous l'avez entendu, ont parlé de leurs recherches, et notamment de sujets assez concrets.
La première chose, c'est de faire le point sur les travaux des chercheurs de l'interrégion Ouest, donc Bretagne, Pays de Loire et Centre-Val-de-Loire. Un certain nombre de collègues ont fait des études pour savoir si les pesticides en association, même à relativement petite dose, tels qu'on le voit dans l'alimentation, pourraient favoriser des cancers. Et au laboratoire, il y a des faits qui sont a priori inquiétants, car l'association de ces différents pesticides pourrait favoriser ou promouvoir un certain nombre de cancers. Mais nous avons également parlé de choses assez fondamentales sur comment fonctionnent les cellules qui deviennent cancéreuses. Et à l'inverse, nous avons parlé de choses qui concernent vraiment les soins, par exemple des collègues qui ont fait des études pour savoir comment gérer un service de cancérologie. Et surtout, ce qui est important, c'est que la qualité de vie des soignants permet une meilleure qualité de vie des malades et surtout, finalement, une amélioration du pronostic des cancers.
Et quand on lui demande ce qu'il pourrait sortir concrètement de ces réunions, Loïc Vaillant résume assez bien la complexité de la chose.
Je dis toujours, c'est de la recherche. Et la recherche, malheureusement, n'est pas applicable immédiatement. Mais dans les travaux qui ont été vus, on voit bien qu'il y a Si j'ai parlé tout à l'heure de la façon de manager une équipe soignante, on voit bien que ça, c'est applicable tout de suite et que ça, ça a un lien. Que les travaux sur les pesticides, eh bien, ça va vous encourager sans doute à les éviter au maximum dans un premier temps par précaution. Et dans un deuxième temps, ça va inciter un certain nombre de collègues à continuer à essayer d'affiner, de savoir quels pesticides, quels mélanges de pesticides sont les plus à risque et quels sont ceux qu'il faut éviter. Et à l'inverse, parce qu'évidemment, c'est le but aussi de savoir ceux que l'on peut utiliser, ceux qui ne sont pas à risque, comme a dit un de nos collègues. Au moins, on ne connaît pas de risque actuellement et c'est donc ceux-là qu'il faut utiliser de façon préférentielle.
Vous en avez parlé tout à l'heure, Marion. L'Union européenne va lancer un grand plan de lutte contre le cancer avant la fin de l'année. Avec 1,3 million de morts par an, le cancer pourrait bientôt devenir la première cause de décès au sein de l'Union.
Merci Florian. Et selon le Cancéropôle de l'Ouest, 40% des cancers pourraient être évités. Le principal conseil du professeur Vaillant est loin d'être inédit, mais il est tout à fait clair, il faut arrêter de fumer. La cigarette est responsable de nombreux cancers, comme celui des poumons, mais également celui de la vessie. Le chômage a baissé de 16% dans les Pays de la Loire au troisième trimestre. C'est même 23% pour les moins de 25 ans. Selon les chiffres du Pôle emploi, il y avait près de 186 000 demandeurs d'emploi dans la région fin septembre. Mais cette baisse est en trompe-l'œil car le nombre de chômeurs avait explosé au deuxième trimestre. Avec le confinement, il avait bondi de 33%. Si on regarde sur un an, le chômage a tout de même augmenté de 13% dans la région.
L'Hebdo Région, rencontre avec.
Les vacances touchent à leur fin pour les élèves des Pays de la Loire. Malgré le confinement, les écoliers, les collégiens et lycéens retourneront en classe à partir de lundi. Mais certains n'étaient pas complètement en congé. Plus d'un millier d'élèves de la région sont revenus à l'école l'espace de quelques jours dans le cadre des vacances apprenantes. On fait le point sur ce dispositif avec William Marois, le recteur de l'Académie de Nantes. Il était en visite dans un collège nantais pour voir à quoi ressemble le dispositif École ouverte.
L'idée au collège, c'est le matin plutôt des activités autour des apprentissages, notamment français, mathématiques, et l'après-midi des activités un petit peu plus ludiques, parce que malgré tout, ce sont les vacances.
Par rapport à l'année dernière, avant le confinement, est-ce que l'on peut dire qu'il y a plus de besoins cette année ?
Alors il y a à la fois plus d'élèves et plus de besoins, parce qu'on sait que la période du confinement a été dure à vivre pour certains élèves, que certains élèves ont des retards dans les apprentissages. Alors ces retards dans les apprentissages, on les prend en charge depuis la rentrée de septembre. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu des tests de positionnement qui ont été proposés par le ministre, en plus des évaluations sur chaque niveau de l'école et du collège. Mais l'école ouverte, les vacances apprenantes, c'est aussi une occasion de permettre aux jeunes de continuer à travailler, de continuer à apprendre, de continuer à rattraper un peu des lacunes. Et on l'a vu par exemple au travers du collège ce matin, c'est l'orthographe.
Trop souvent, lorsqu'il y a des propositions éducatives, ce ne sont pas toujours les élèves qui en ont besoin, qui sont présents. Est-ce réellement le cas aussi pour les vacances apprenantes ?
Là, je crois qu'on est vraiment dans toute la diversité du collège et je crois qu'il y a des élèves qui en ont besoin. Il y en a d'autres qui ont un peu moins besoin. Mais vous savez, l'orthographe, je crois que tout le monde a besoin, même les adultes. On a tous besoin parfois de quelques rafraîchissements des connaissances.
Ces élèves sont choisis pour justement participer à ces temps de vacances un peu particuliers ?
Alors les élèves viennent sur la base du volontariat. D'ailleurs, c'est eux qui sont volontaires, ils me le disent. Hein, tous les collèges que j'ai visités aujourd'hui, tous les élèves m'ont dit que c'était vraiment eux qui avaient choisi de venir pendant les vacances au collège. Parce qu'on pourrait aussi imaginer que ce sont les parents qui les ont fortement encouragés à venir. Mais non, ils sont vraiment volontaires. Parfois, le chef d'établissement peut conseiller à un élève de venir, mais le volontariat reste la base. Le volontariat aussi, d'ailleurs, des équipes.
Tout comme les professeurs, effectivement, ce sont aussi des volontaires ?
Alors, les professeurs qui interviennent sont effectivement des professeurs volontaires qui ont à cœur de prendre les élèves en charge pendant une ou deux journées au début des vacances.
Des professeurs rémunérés pour cela ?
Alors, ils sont bien entendu rémunérés pour cette activité.
Est-ce que l'objectif, c'est de développer encore davantage ces vacances apprenantes ?
Ah, tout à fait. Le confinement, toute cette période a donné un coup de fouet aux vacances apprenantes. Alors, notamment à la fin des vacances de cet été, parce que là, on a eu beaucoup de stages de remise à niveau, on a eu beaucoup d'écoles ouvertes, on a eu aussi une opération particulière dans les lycées professionnels qui s'appelle l'été du pro. Tout ça sera renouvelé l'année prochaine, le ministre l'a dit, et tout ça est important. crois, pour les élèves, et notamment les élèves qui sont les plus désœuvrés pendant les vacances. Il n'est pas question de concurrencer d'autres modes de prise en charge des élèves. Ça peut exister au niveau des communes, au niveau de différentes activités, mais le point de départ, la création de l'école ouverte, notamment dans les collèges, ça a été une initiative de terrain, c'est-à-dire des chefs d'établissement de l'Académie de Créteil ont constaté que des élèves étaient désœuvrés et ont proposé de les accueillir quelques jours au début des vacances pour éviter qu'ils traînent dans la rue.
Les vacances, c'est fait pour se reposer, pour rêver, pour jouer. Est-ce que c'est fait vraiment pour apprendre ?
Il n'y a pas que des apprentissages. Cet après-midi, c'est une activité ludique. À Grésembouère, où j'étais ce matin, ils vont aussi avoir des activités ludiques à peu près du même type. Et puis à Cran, ils passent l'après-midi au centre hippique. Donc vous voyez, on ne fait pas qu'apprendre pendant les vacances, mais c'est bien aussi de consacrer un petit peu de temps aux apprentissages.
William Marois, le recteur de l'Académie de Nantes, répondait aux questions d'Anthony Torzek. Et la rentrée des classes lundi a été décalée à 10h en raison de l'hommage à Samuel Paty, cet enseignant des Yvelines tué il y a 2 semaines pour avoir montré des caricatures du prophète Mahomet à ses élèves. Cet hommage sera rendu dans tous les établissements scolaires de France avec une séquence pédagogique en classe, la lecture de la lettre aux instituts et institutrice de Jean Jaurès et une minute de silence. Si la rentrée sera donc décalée à 10h, les transports scolaires dans les Pays de la Loire garderont, eux, les mêmes horaires que d'habitude. La décision de repousser la rentrée de 2h a été prise trop tard par le gouvernement pour réorganiser l'ensemble des lignes, explique la région. Je vous rappelle que le masque sera désormais obligatoire à l'école dès 6 ans.
L'Hebdo-Région, initiative.
C'est une décision plutôt inédite. Une mairie du sud de Sarthe a décidé de racheter les 2 boulangeries de la commune. Aubery Métro, bonjour.
Bonjour Marion.
Cette initiative, elle a lieu à Noyens-sur-Sarthe.
Oui, nous sommes entre Sablé et Le Mans, dans une commune d'à peu près 2700 habitants, plutôt dynamique. Mais voilà, comme dans beaucoup de villages de notre région, l'un des boulangers a décidé de partir à la retraite. Alors pour éviter toute mauvaise surprise, Jean-Louis Maurice, le maire de Noyens, a pris les devants.
Il y a quelques années, nous avions 3 boulangeries sur la commune, dont un boulanger avait racheté une boulangerie et l'avait fermée. Donc un boulanger a voulu racheter l'autre boulangerie, qui lui partait en retraite. Donc nous avons pris notre droit de préemption que j'ai expliqué donc, au conseil municipal, puisqu'en fait, me disant qu'il n'y aurait plus qu'une seule boulangerie sur Noyens, pour moi, c'était pas assez, parce qu'il y a les week-ends, les vacances du boulanger aussi à gérer. Donc aujourd'hui, j'ai 2 boulangers qui vont arriver sur Noyens. Les dates sont fixées.
Un investissement important pour les finances de la commune, mais cela va garantir le dynamisme du centre-bourg et des alentours pour les prochaines années, selon Jean-Louis Maurice.
Pour le rayonnement de la commune, pour les citoyens, pour nos associations aussi, je veux dire, nous, on a aussi une résidence autonomie sur Noyens, 92 logements, donc voilà, on a besoin de boulangers. Et aussi, je veux dire, le commerce attire le commerce, puisqu'en fait, on a encore la chance d'avoir plusieurs commerçants, mais si on avait eu les 2 boulangeries à fermer, parce que je pense que peut-être qu'à la fin, ça aurait fini comme ça, on aurait eu des difficultés. Donc ça rassure aussi tous les commerçants qui sont autour, voilà. Puisque ça fait une attractivité importante.
Des boulangeries, une supérette, des écoles, voilà de quoi convaincre de nouveaux habitants, Aubery.
Exactement, Marion, et notamment des Parisiens qui ont un grand besoin de verdure depuis le début de la crise sanitaire.
Depuis le confinement, donc, on a beaucoup de demandes donc, en location et beaucoup de demandes en achat. Les pavillons qui sont aujourd'hui mis en vente, une semaine après, ils sont vendus. Ce sont plutôt des jeunes en fait, qui viennent travailler aussi sur Noyens et aux alentours. Ce sont aussi quelques Parisiens qui arrivent sur Noyens, qui font faire la route tous les jours, puisqu'en fait, on a la chance à Noyens-sur-Sarthe d'avoir la gare. Donc des personnes qui vont prendre le train à Noyens, Le Mans, Paris. Voilà, on en a de plus en plus. Et avec le télétravail, je crois que ça va s'accentuer. Puisqu'en fait, les personnes n'ont plus besoin d'aller au travail 5 jours sur 5. Voilà, donc avec le télétravail, ils n'iront plus qu'à Paris 1 fois, 2 fois ou 3 fois par semaine, qui améliore fortement les conditions pour rester sur Noyens.
Reste à savoir maintenant quel effet va avoir ce deuxième confinement sur l'immobilier à Noyens, mais aussi dans le reste du département de la Sarthe.
Merci Aubery. C'est un autre enjeu de l'attractivité des zones rurales, l'accès à des services publics. D'après une étude de l'INSEE, il faut 9 minutes en moyenne pour accéder à des services comme la Poste, la CAF, le Pôle emploi ou les impôts dans les Pays de la Loire. Et c'est le Maine-et-Loire qui est le mieux loti de la région avec 7 minutes en moyenne contre 8 pour la Mayenne et 10 minutes dans les 3 autres départements. Et ce temps d'accès a diminué avec la création de maisons de services au public dans les petites villes depuis 2015. Il y en a 20 en Maine-et-Loire, ce qui a permis de désenclaver les zones rurales.
L'Hebdo-Région, l'actualité religieuse.
Cette semaine, l'actualité religieuse dans la région, c'est le passage en Vendée d'un périple à vélo consacré à la Vierge Marie. Fanny Brevet, bonjour.
Bonjour Marion, bonjour à tous.
Trois roues, trois AV, c'est le projet initié par Alix et Benoît Poitvin avec leurs trois jeunes garçons. Un projet en tricycle couché pour sillonner l'ouest de la France, avec un but bien particulier, Fanny.
Oui Marion, ils sont partis du sanctuaire Notre-Dame de la Trinité à Blois le 15 août dernier pour faire connaître la dévotion des trois Ave. En effet, au XIIIe siècle, la Vierge Marie apparaît à une religieuse, sainte Mechtilde. Elle lui promet de l'assister à l'heure de sa mort et l'invite en retour à réciter « Trois Je vous salue Marie » chaque jour. La suite de l'histoire, c'est Benoît Poitvin qui nous la raconte au micro d'Anne Déter.
Au XIIIe siècle, sainte Mechtilde, une sainte qui a eu un grand rayonnement au Moyen-Âge, demande un jour à la Vierge Marie de l'accompagner à l'heure de la mort. Et la Vierge Marie lui répond « Je t'accompagnerai, mais toi, en retour, récite chaque jour trois Ave Maria, trois Je vous salue Marie. Le premier en l'honneur du Père, qui me donne sa toute-puissance, le deuxième en l'honneur du Fils, qui me donne sa sagesse, et le troisième en l'honneur du Saint-Esprit, qui me donne sa miséricorde. » Et en vertu de ces trois qualités, ces trois privilèges que je reçois, puissance, sagesse et miséricorde, je t'accompagnerai à l'heure de la mort de façon très concrète, puisque la Vierge Marie promet de changer les angoisses en douceur. Donc vous voyez, c'est très concret, et de nous ouvrir le ciel. Et puis après, les saints en ont beaucoup parlé dans l'histoire, Saint Jean-Marie Vianney, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, voilà, donc de temps en temps, et puis l'Église, il y a 100 ans, a mis un coup de pouce en demandant que soit prié les trois Ave le matin et le soir, avec cette petite phrase « Vierge Marie, préserve-moi de tout péché mortel ce jour et cette nuit ». Et voilà.
Cette dévotion, Alix et Benoît Poitvin cherchent donc à la développer auprès des gens qu'ils rencontrent. Après être notamment passés par Pontmain et Nantes, ils étaient cette semaine de passage en Vendée.
Du coup, on demande l'hospitalité chaque soir, et donc parfois c'est un petit peu prévu. Et quand c'est prévu, on demande que les gens invitent leurs amis. Et puis, on discute des trois Ave, on témoigne de cette prière toute simple et qui nous donne la paix. Et c'est le témoignage qu'on peut voir quand on en parle. Les gens qui pratiquent les trois Ave dans leur quotidien voient que la Vierge Marie les accompagne, les protège et leur donne la paix. Voilà, leur donne la paix, nous, c'est très concret. Hein. Alix, un soir, lorsque nous étions encore à Blois, était avec les enfants un peu exaspérés. Elle m'envoie un SMS, trois Ave, s'il te plaît. Et je prie au travail trois Je vous salue Marie. Je peux, et votre mari peut aussi prier trois Je vous salue Marie au travail, même dans sa tête, il est en réunion, voilà, c'est facile, trois Je vous salue Marie. Et Alix a retrouvé la paix. Et c'est l'expérience que font les gens à qui nous confions cette prière.
Benoît, justement, en ces temps un peu morose, hein, qu'est-ce que peut apporter justement cette prière, cette dévotion des trois Ave?
La sérénité, on est beaucoup en recherche de sérénité, on ne sait plus à quel fin se vouer, parfois on dit ça. Prenons l'exemple de Don Bosco, qui en 1854 a envoyé ses jeunes soigner le choléra, avec la promesse de ne pas être malade s'il ne péchait pas mortellement. Et en fait, il faisait prier tous les matins les trois Ave à ses jeunes. Et voilà. Et je pense que c'est important. Et faites l'expérience et vous allez voir que ça vous redonnera la paix dans votre quotidien. Et puis même au milieu de conflits, même si c'est difficile avec votre mari parfois, prenez le temps de vous arrêter pour prier vos trois Ave, pour retrouver cette paix que la Vierge Marie veut donner, qui n'enlève pas les difficultés, mais qui vient nous accompagner dans ce temps compliqué que nous avons tous à vivre de manière différente.
Avec leur tricycle, Alix, Benoît et leurs trois jeunes garçons, âgés de 4 ans et demi, 3 ans et 8 mois, ont comme objectif de rejoindre Lourdes. Actuellement en Vendée, ils arrêtent leur périple pendant le confinement et espèrent reprendre ensuite.
Merci Fanny, et j'ajoute qu'une bande dessinée intitulée « Le mystère des trois Ave » sortira le 27 novembre prochain en librairie.
L'Hebdo-Région, si on sortait.
Et puis puisque nous avons encore le droit d'aller au cimetière ce week-end pour la Toussaint, eh bien on ne va pas se gêner, bien sûr, pour rendre hommage à nos défunts, mais aussi, et pardon pour ceux que cela pourrait choquer, pour faire un peu de tourisme culturel. C'est la sortie que nous propose Fidélité Mayenne. Isabelle Rupin, bonjour.
Bonjour Marion, drôle de sortie en effet, me direz-vous. Mais Amélie de Cercet, du service patrimoine de la ville de Laval, s'est intéressée aux épitaphes que l'on trouve souvent sur les monuments funéraires.
Les épitaphes, ce sont ces inscriptions qui sont gravées sur des plaques de marbre qui comportent une ou plusieurs lignes que l'on trouvait initialement sur les pierres tombales ou sur un monument funéraire de plus grande ampleur et qui généralement ont été déplacées avec le temps et que l'on peut maintenant découvrir surtout sur les murs de nos églises. On commence à avoir la généralisation de cette pratique à partir de la fin du Moyen-Âge et une pratique qui va s'étirer donc pendant toute l'époque moderne et qui disparaîtra petit à petit au cours du 19e siècle.
On aurait pu penser que le latin était la langue par excellence de l'épitaphe. Eh bien non, nous explique notre spécialiste.
C'est plutôt en vieux français. Le latin, on l'a surtout dans la dernière partie de l'épitaphe, hein, qu'on emploie d'ailleurs encore aujourd'hui régulièrement, ces fameuses trois lettres R.I.P. requiescat in pace, c'est-à-dire qu'il repose en paix. L'idée, c'est non seulement l'éloge, mais qu'on se souvienne du défunt au-delà de la mort. Et l'objectif aussi, c'est de rappeler à nous tous, pauvres mortels, ce qui nous attend à la fin de nos jours.
Et on a souvent dans l'idée, Isabelle, que l'épitaphe est une œuvre très travaillée.
Vous avez entièrement raison, Marion. Amélie de Cercet nous confirme, une épitaphe, ce peut être quasiment une œuvre d'art, et pas seulement d'ailleurs un texte écrit.
Effectivement, on peut distinguer donc deux parties. La partie plus littéraire, où on va avoir le nom du défunt, la traditionnelle formule si J x y. Ensuite, l'éloge qui peut se faire d'une manière narrative, mais aussi d'une manière poétique. On a des épitaphes qui sont des poèmes tout à fait remarquables avec des rimes, des quatrains et des alexandrins. Ça, c'est pour la partie littéraire. Et la partie artistique, on en a plein de sortes qui nous apportent des renseignements extrêmement précieux sur ce défunt. Pour les familles nobles, on va retrouver le blason. Et souvent, ces personnes issues de la noblesse eh bien, appartenaient à un ordre de chevalerie. Donc on va retrouver des insignes de l'ordre de chevalerie, par exemple l'ordre de Saint-Michel. On peut trouver un dessin de l'objet qui a causé la mort de la personne, comme des mousquets pour quelqu'un qui va mourir d'une balle dans la tête. On peut retrouver, et ça c'est quasiment sur tous les épitaphes, le dessin d'un crâne qui montre eh bien ce que devient le corps après la mort, la brièveté de la vie finalement, mais aussi la vanité des choses de ce monde, qui est quelque chose qui est très à la mode dans ce contexte de la contre-réforme au XVIIe siècle. On a aussi d'autres éléments symboliques comme la faucille, qui incarne donc la mort dans le cycle de la vie. On a traditionnellement la représentation de la grande faucheuse. Et alors en fonction de la forme de la lame, on a différentes interprétations. Par exemple, si la lame a une forme de lune, c'est le symbole de la nuit, donc de la fin du monde et du passage de la lumière à la nuit. On peut aussi avoir des flammes, donc c'est les flammes qui vont faire la lumière, qui va nous guider dans les ténèbres.
La Bianco, célèbre en Mayenne pour son dictionnaire historique et biographique de la Mayenne, recense plus de 500 épitaphes et c'est avec l'une d'elles que l'on va conclure pour nous donner un petit air de légèreté.
La première fois que je l'ai vue, j'avoue que je suis partie vraiment dans un fou rire. Donc elle se trouve dans l'église d'Argentré, pardon. Donc c'est une inscription en rime qui est consacrée à un curé de paroisse, Louis de Fontenoy, qui meurt en 1693. Cette épitaphe, somme toute assez classique, hein, commence par la formule traditionnelle, si, j, etc., etc. On raconte quelques éléments de sa vie. Et en fait, c'est vraiment, ça arrive en tout dernier lieu, après plusieurs lignes narratives. La conclusion de ce récit, c'est « il est mort, c'est dommage ».
Merci Isabelle et merci à votre spécialiste des épitaphes, Amélie de Cercet, pour ce petit clin d'œil qui fait sourire. On en a bien besoin en ce moment. Et Isabelle, vous nous parliez la semaine dernière des fouilles réalisées en ce moment dans le centre de Laval, autour de la place du 11 novembre. Et les archéologues ont découvert lundi dernier ce qui semble être les vestiges d'une des plus grosses manufactures de toiles de lin de la ville au XVIIIe siècle, la manufacture de Leclerc de la Jubertière. Une découverte attendue, hein, puisqu'elle figurait sur les cadastres du temps de Napoléon. C'est une première pour le départ du Vendée Globe le 8 novembre au Sable d'Olonne. Confinement oblige, il n'y aura pas de public pour observer les 33 skippers prendre le large pour leur tour du monde en solitaire. Et le village du Vendée Globe a refermé ses portes jeudi soir, deux semaines à peine après avoir ouvert. Lui ouvrira le 27 mars prochain le Puy du Fou Espagna à Tolède, moins de 2 ans après le lancement de son grand spectacle nocturne El Sueño de Toledo. L'annonce a été faite mardi par le Parc Vendéen. Sur 30 hectares, les visiteurs pourront revivre les grandes heures de l'histoire de l'Espagne et ses plus célèbres légendes grâce à 4 grands spectacles et 4 villages d'époque. Et puis le Tour de France passera-t-il à Laval l'an prochain? Le tracé de la Grande Boucle doit être dévoilé ce dimanche. La ville de Laval s'est portée candidate pour en accueillir une étape. Fin du suspense dimanche. Voilà, c'est la fin de cette hebdo-région. Ce magazine vous a été présenté par la rédaction de RCF Anjou, en collaboration avec les autres radios chrétiennes des Pays de la Loire. Un nouveau numéro la semaine prochaine, et d'ici là, je vous souhaite un excellent week-end.